Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler, alors pas uniquement d'architecture et d'urbanisme, mais on va déborder un peu sur l'art d'une manière générale et on va reprendre ce mot qui apparaît dans la campagne politique actuelle, qui est le thème de la culture. Alors, certains partis regrettent que la culture n'apparaisse pas assez dans le débat public. Mais aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas des consignes de vote que je vais donner, bien sûr, mais simplement d'ouvrir le débat d'abord sur cette définition et ce mot « culture ». Alors, comme disait Bernanos sur la tolérance, il y a des maisons pour ça. On pourrait dire la culture, il y a des maisons pour ça. Mais ça ne résout pas le problème de la définition. Alors, comme vous le savez, c'est apparu assez récemment, le mot culture. Avant, c'était les affaires culturelles. Donc, c'est au moment où la gauche a pris la présidence de la République avec Mitterrand qu'on a créé le ministère de la culture, qui devait d'ailleurs s'appeler originalement, pour vous dire à quoi on a échappé, ministère de l'intelligence, ce qui était quand même assez prétentieux. Mais le problème, c'est que, autant l'intelligence est difficile à définir, la culture l'est aussi. Parce que la culture, d'abord singulier, est pas assez paradoxal, parce qu'on parle des cultures du monde, et il y a par exemple l'UNESCO, dont c'est la tâche qui, on peut dire, labellise, qui protège les expressions culturelles, donc le mot « culture » serait un mot générique de la diversité. Donc si tout est culturel, et c'est un peu le débat de ce qui s'est passé justement et l'extension qui avait été, je pense, au cœur de la politique de Jack Lang, c'était d'inclure dans ce qui était, on peut dire, traditionnellement les arts nobles, les beaux-arts, avec architecture, peinture, culture, musique, aussi des arts un peu considérés comme mineurs, comme le rap, etc. Ou disons des sous-ensembles. Alors j'en parle en connaissance de cause, parce que le ministère, effectivement, c'est celui qui a été, au long de ma vie d'architecte, mon ministère de tutelle, et en tant qu'enseignant également, j'ai été fonctionnaire du ministère de la culture, donc mais je suis pas là pour parler des arcanes et des problèmes de ce ministère, mais bon, essayons de parler justement de cette ambiguïté entre la culture et les cultures. Donc, ce que l'on entend dire, c'est « toutes les cultures se valent ». Alors, si toutes les cultures se valent, ça voudrait dire qu'on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait un ministère pour ça. Si la culture, ce sont toutes les caractéristiques d'une civilisation, toutes les caractéristiques d'une nation, toutes les caractéristiques du peuple, eh bien, on est sur une diversité et on peut en dire il faut protéger toutes ces caractéristiques et on ne fait pas de hiérarchie entre les cultures. Donc, on voit pas très bien comment on peut les améliorer, puisqu'en fait, il y a un état de fait qui est, comment dire, qui serait plutôt un élément du passé. C'est-à-dire, on n'aurait qu'un rôle de conservation. Et alors là, justement, la politique, ou du moins le progressisme culturel s'insurge contre une vision qui serait pétrifiée, pour reprendre le mot du parti de Madame Le Pen. Et on avait un article ce matin dans Libération qui justement caricaturait, on se moquait de ce mot pétrifié, disons qu'effectivement c'était à tous les sens du terme une manière de que l'on pouvait employer pour l'architecture, mais qui ne renvoyait à rien de vivant, ce qui est effectivement assez vrai. Mais il faut aller plus loin dans ce débat, parce que là, apparaît dans la manière dont le débat est présenté, la culture qui serait quelque chose à sauver, parce que ce serait l'expression d'un groupe progressiste de la liberté, et il y aurait donc atteinte à la liberté. Alors d'un côté, on aurait conservé l'identité, la culture et les diversités, pas uniquement pour notre pays, mais aussi protéger celles des autres, aussi les cultures régionales, les langues, et le patrimoine architectural, mais aussi tout des chansons, des cuisines, enfin, avoir une vision assez étendue. Alors, et puis il y a l'autre aspect qui est l'aspect dynamique, et dans lequel on assigne à l'artiste un rôle qui serait d'être un rôle, on peut dire, romantique, où l'artiste serait une sorte de vigie sanctifiée, et qui serait donc de son temps en difficulté. Alors on reprend, vous savez tous, on a ce que l'on a appris à l'école, c'est le poème de le Goéland de Baudelaire, c'est le zèle de géant l'empêche de marcher. Donc l'image du poète qui est en quelque sorte dans une insatisfaction sociale et qui n'aurait sa célébrité que plus tard. Donc c'est toute l'idée des avant-gardes. D'ailleurs, le même Baudelaire, qui était aussi, au-delà d'être poète, qui était critique d'art, raillait la notion d'avant-garde. Il disait c'est une notion militaire, parce que les avant-gardes d'aujourd'hui seront les arrière-gardes de demain, ce qui est assez joli comme formule. Alors, de quoi parle-t-on dans ce débat? On parle en fait d'un monde assez limité qui est, on peut dire, l'art subventionné. Et la question qui est posée, c'est le rôle de l'État par rapport au monde culturel, donc qui serait, suivant la théorie justement des avant-gardes, qui ne serait pas en phase avec son époque, mais qui préfigurerait l'époque à venir, dont de ce fait, étant en décalage, il a besoin de l'intervention publique pour exister. Donc ça, ce serait la thèse. Alors, là, je me permets de m'inscrire en faux par rapport à ça, et je vous donne ma position personnelle. Je pense que l'art incompris à son époque, je pense qu'il n'existe pas. Il n'y a pas, ça c'est une vision romantique où on a tout le récit sur Van Gogh, sur Gauguin, mais si on connaît bien la véritable histoire, les choses sont beaucoup plus complexes. Et en fait, il s'agit simplement, à des moments de l'histoire, il y a des mutations dans les goûts de l'esthétique, il y a aussi des mutations sociales qui font, comme je l'ai expliqué dans une autre émission, le passage de l'impressionnisme, où on passe de l'académisme à l'impressionnisme, et une peinture qui est très lente et, on peut dire, très codifiée, et qui va être remplacée par par d'abord des œuvres plus accessibles, plus rapides à faire, de format plus petit, et pour une clientèle qui va être différente, qui ne va plus être que institutionnelle et aussi pour l'aristocratie, mais qui va être pour une bourgeoisie nouvelle. Donc on est dans ce rapport, et donc on ne peut pas uniquement dire que l'artiste est quelqu'un qui est, on peut dire, incompris de son temps. Alors, c'est tout le problème, par exemple, des subventions dans le cinéma. Alors, tout n'est pas subventionné. Par exemple, les peintres, les architectes, j'en parle pas, bien sûr que non, mais les écrivains ne le sont pas, les poètes non plus. Donc, on n'est pas dans cela. Mais il y a un monde qui s'appelle le spectacle vivant et le cinéma, en France, qui a des subventions. Alors, je ne vais pas attaquer ce monde-là, mais on peut tout de même se poser la question entre l'adhésion du public et les subventions qui sont données. Et on peut dire que si effectivement il y a eu à une époque un rôle très positif qui a sauvé dans les mutations technologiques le cinéma français, on peut voir aussi, quand on regarde les génériques avec l'aide du Fonds du cinéma, la région PACA, Midi-Pyrénées, le département, les villes qui finançaient les films, et que ces films sont des films absolument sans intérêt. Et on se demande pourquoi on fait des films aussi nuls. On se demande, puisque ces subventions, on peut dire publiques, même diversifiées, sont celles de notre argent, le contribuable. Alors, si ces films n'ont pas le succès voulu par les gens, on ne peut pas simplement dire l'art a besoin d'être subventionné, ce qui est pourtant le motif et qui était le fond de sauce de l'article de Libération d'aujourd'hui. Je marque une pause musicale et on va continuer une deuxième partie. Alors, je vous parlais du cinéma, mais par exemple, au niveau des arts plastiques, je vous disais, il n'y a pas de subvention directe, mais on a créé une chose surprenante qui nous paraît tellement évidente aujourd'hui, c'est les musées d'art contemporain. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une question française, c'est quelque chose qui est assez généralisé, on peut dire, dans tous les pays du monde, et même les pays, on peut dire, non occidentaux, sur ce modèle justement qui a été développé, on peut dire, depuis l'après-guerre, parce que les musées, il faut le rappeler, à l'origine, c'était pour protéger des œuvres anciennes, pour recevoir les donations de patrimoniales, et évidemment, échapper les œuvres des contemporains qui, elles, étaient dans les galeries et aussi dans les expositions. Alors, avec les impressionnistes, par exemple, on a parlé des fameux salons dans lequel il y avait le salon des officiels, le salon de l'académie, il y avait le salon des refusés, tout cela n'existe pas sous cette forme. Alors, il existe effectivement un système marchand qui est celui des galeries et aussi des foires, mais qui, on peut dire, est parallèle, et aussi, bon, il y a aussi des ventes aux enchères d'œuvres modernes. Donc, il y a tout un marché qui se crée. Mais il y a aussi cette singularité, les musées d'art contemporain. Alors, les musées d'art contemporain ont des acquisitions publiques. Alors, les régions en ont, les fameux FRAC, mais il y a de nombreux musées où, par exemple, un musée de la Fondation Soulages qui est un musée public, même s'il y a des dons qui ont été faits par l'artiste de son vivant. Donc là, c'est quelque chose qui est assez récent, d'avoir les œuvres d'artistes vivants. Et on peut dire que rentrer dans un musée de son vivant, c'est... dans une certaine manière, ne pas attendre que le temps ait fait son œuvre. Et donc, la question que l'on se posait, que l'on peut se poser légitimement, qui choisit ? Et là, il y a effectivement une question assez complexe, parce que le choix de ces achats publics, qui sont faits avec notre argent, faut-il le rappeler, et n'est pas forcément celui qui est celui du marché. Par exemple, on sait qu'il y a, par exemple, les installations qui sont une forme de on peut dire, de sculpture d'une manière assez hétéroclite, hétérogène et souvent avec des buts démonstratifs et assez surprenants. Mais ces œuvres-là, on les retrouve dans les institutions comme le musée des abattoirs, par exemple, à Toulouse, mais vous en avez dans toutes les villes françaises, mais aussi vous avez ça à Bilbao, à Barcelone. Enfin, les musées d'art contemporain sont maillent tout le, on peut dire, tout le territoire et quasiment le territoire mondial. Mais on peut, je veux dire, légitimement s'interroger sur cela, puisque, en fait, la question c'est quels sont les critères. Alors, je vous prenais le cas des installations, parce que les installations, on n'en trouve pas sur le marché. Par exemple, dans les galeries, vous n'avez quasiment jamais d'installations, et vous n'avez pas non plus dans les ventes aux enchères, que ce soit celle des grandes maisons de ventes aux enchères comme Christie's ou Sotheby's, vous n'avez pas non plus ce genre d'œuvre. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas cela. Alors, on a, il faut le dire, par rapport aux installations, que se pose le problème justement de l'adhésion du public. Alors si le public ne l'achète pas, c'est qu'il y a un problème d'adhésion. Alors on peut dire oui, mais les fonctionnaires culturels sont des gens avisés et ou les artistes eux-mêmes. Alors là, on peut aussi parler du marché et qui va être le rôle des galeries et des foires. Alors, pour revenir à un propos précédent qui était sur les salons de l'impressionnisme. On avait à cette époque-là des grandes réactions, puisqu'il y avait dans les journaux, les principaux journaux, des polémiques, alors les polémiques bien connues sur le déjeuner sur l'herbe de Manet, où on a effectivement une femme nue qui est à moitié avec des hommes habillés, ça avait scandalisé l'époque. Alors il est évident qu'aujourd'hui, rien ne scandalise personne, mais il faut en conclure aussi qu'il y a une coupure très nette entre l'art, on peut dire, officiel, celui qui va être dans les musées d'art contemporain, celui qui va être celui des ventes aux enchères des galeries, et le public, et les goûts du public, effectivement, sont assez peu en phase avec cela. Quand je parle du public, il s'agit d'un grand public. Alors, dans le cas plus ancien, alors non pas que j'ai une nostalgie forcément du 19e siècle, mais on avait une curiosité, une adhésion, mais c'était une époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas évidemment de smartphone, il n'y avait pas de cinéma, et les reproductions et les techniques de reproduction n'existaient pas non plus. Donc le seul moyen d'avoir, on peut dire, de l'image ou du visuel, était bien sûr d'aller, alors d'abord dans les églises où on avait des tableaux, mais aussi dans les palais et dans ces salons aussi, qui montraient aussi des galeries qui étaient très vivantes. Mais il n'y avait pas une coupure au niveau du public, et aujourd'hui, avec l'art moderne, et ça va être la conclusion de mon propos, on a quelque chose qui est quand même très très dommageable. Alors, il s'agit bien sûr, je parle de la peinture et de la sculpture, la musique, n'a pas ces problèmes de mode et comme cela, mais on a une scission, on peut dire, culturelle entre un public éclairé, puis il y a un public, on peut dire, qui fait de la spéculation à partir des œuvres d'art. Et là, on peut aussi, et ça peut faire une émission sur les relations qui peuvent être curieuses entre les musées, l'État, l'argent public, et aussi la spéculation des œuvres d'art qui peuvent atteindre des sommes très importantes. Donc on se trouve devant ces collections privées des milliardaires et une situation qui est assez singulière. Mais pour conclure, je vous disais, c'est cette coupure qui est la plus inquiétante. Alors pour revenir au début du propos, évidemment, l'image de l'artiste qui est d'avant-garde et qui est une sorte de vigie qui nous ouvre le futur, et en disant si vous ne le comprenez pas, vous le comprendrez plus tard, ou vos enfants le comprendront, c'est un peu facile pour justement pour ne pas essayer de résoudre cette coupure entre, on peut dire, le goût populaire, le goût de la grande majorité de la population, et une élite, on peut dire une élite bourgeoise, qui, entre guillemets, consomme l'art contemporain. C'était Où vivrons-nous demain ? Avec à la technique l'excellent Léo et l'écoute attentive des étudiants de l'école de journalisme Lydia et Matisse.